Les séminaires du Collège de France.
Bonsoir à tous. Donc, j'ai effectivement fait connaissance avec Jean-Marie Tarascon lorsqu'il a créé le réseau RS2E. Donc, j'étais à ce moment-là patron de la recherche et de l'innovation de Renault. Et donc, il m'a fait l'amitié de demander d'intervenir à la fin de son dernier cours. Et ce que je vous propose, c'est d'évoquer un thème qui, je pense, est important. C'est la mobilité que nous utilisons aujourd'hui est-elle encore compatible sans énergie fossile. Les batteries lithium-ion ayant été un des axes majeurs pour pouvoir introduire ces véhicules électriques. Je ne me concentrerai pas que sur la voiture électrique, on va vraiment regarder l'ensemble de la mobilité. Ce que je voudrais d'abord partager avec vous, c'est que depuis qu'on a su domestiquer le charbon puis le pétrole, eh bien, la mobilité, la circulation des biens et des personnes a suivi une accélération exponentielle. Et la mobilité n'est pas la conséquence de la prospérité, c'est l'inverse. La prospérité de nos civilisations est bien le fait qu'on a pu augmenter la mobilité des biens et des personnes. On s'est donc habitué à faire venir nos objets du bout du monde, à voyager en avion pour nos vacances ou professionnellement, et ceci a dopé nos économies. En fait, l'énergie fossile, très abondante et abordable, nous a poussé à user, voire abuser, de cette hypermobilité jusqu'à récemment. Il se trouve que le contexte environnemental, et notamment sur le climat, va nous obliger à réduire à zéro notre consommation d'énergie fossile. Et donc la grande question, c'est, trouverons-nous des énergies alternatives, ou bien devrons-nous nous résigner à réduire notre mobilité ? Ou une combinaison des deux, c'est ce que je vous propose de regarder ensemble maintenant. Alors, je vais faire quelques rappels très rapides sur l'énergie et la mobilité. Ensuite, je parlerai de la mobilité des biens et des personnes selon différents vecteurs. Je vous montrerai quelle est l'addiction de la mobilité au pétrole. Et donc ensuite, est-ce qu'une mobilité sans énergie fossile est faisable et sous quelles conditions ? Donc voilà ce que je vous propose. Comme je suis devant un public de scientifiques très avertis, mes rappels, je vais y aller très très vite. Je pense que je ne vous ferai pas l'injure de vous apprendre quelque chose là-dedans. Donc en reprenant la définition de l'énergie, donc c'est à la fois une grandeur qui caractérise un système physique qui garde la même valeur au cours de toutes les transformations internes du système ou qui exprime sa capacité à modifier l'état d'autres systèmes avec lesquels il entre en action. Et pour la mobilité, bien l'énergie sert à déplacer des objets, elle produit donc un travail. Alors le travail, c'est le produit de la force qui s'exerce sur l'objet par la distance parcourue. Et cette énergie va donc être transformée en travail, mais pas à 100%, car elle dissipera de la chaleur, c'est la notion de rendement. Donc la mobilité demande d'autant plus d'énergie qu'elle déplace des objets plus lourds et plus loin, et que le rendement de sa machine est mauvais. Bon, j'insiste pas, vous connaissez tout ça, mais ça me paraissait peut-être pas inutile de revenir sur ces fondamentaux. Alors maintenant, on va regarder quelques éléments importants qui concernent la mobilité des biens et des personnes. Je vais commencer sur la partie des personnes. Il y a un économiste israélien qui avait proposé ce qu'on appelle la conjecture de Zahavi, qui porte sur le budget temps de transport. En fait, quand il a analysé les temps de transport quotidiens sur l'ensemble de la planète, il a découvert que, en moyenne, donc là il y a des variations, mais en moyenne, que l'on soit, donc vous avez le cas ici, donc en Afrique, au Ghana, donc c'était en 88, donc les gens parcouraient 4 km, pardon, une heure. Donc, on a plusieurs pays avec différents pouvoirs d'achat. La distance, on va y venir après. Et on voit que, quel que soit le pays, finalement, un pays à très très bas revenu ou les États-Unis, eh bien, le temps de transport quotidien est finalement à peu près le même partout et de l'ordre de 1 heure. C'est-à-dire, quel que soit le pays de revenu, le temps de transport quotidien est de l'ordre de 1 heure par jour. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est de regarder donc, les distances parcourues. Alors pareil, des pays qui ne disposent pas de moyens de transport modernes, eh bien, ils ont une distance quotidienne qui est de l'ordre du kilomètre. Aux États-Unis, donc là, c'est une donnée qui date de 1995. Là, vous voyez qu'on était à 60 km par jour. Donc les moyens de transport modernes augmentent les vitesses et donc les distances quotidiennes. Et ces distances annuelles sont proportionnelles aux revenus. Là aussi, vous avez donc toute la nomenclature. Ici, vous avez l'océan Pacifique, l'Asie Pacifique, avec des très petits revenus et des très petites distances annuelles. Les États-Unis doivent être par ici. Donc ces distances annuelles sont encore les revenus. Tout à l'heure, j'ai évoqué la corrélation entre la mobilité et la prospérité. Ça, c'est un exemple. En fait, plus le PIB d'un pays est important, plus les distances parcourues par an sont importantes. Alors ces distances quotidiennes, qui sont finalement homogènes, quel que soit leur revenu sur la planète, on peut les retrouver aussi sur les longues distances, mais là, je n'ai des données alors, qui nous viennent d'Aurélien Bigot. Ça, ce sont les longues distances, on va dire, pour les loisirs, où l'on voit que, quel que soit le moyen utilisé, que ce soit la voiture, le TGV, l'aérien, on tourne en moyenne sur des temps de trajet pour ces longues distances de l'ordre de 4 heures, hein, mais avec une forte dispersion. Et donc, selon le moyen utilisé, évidemment, la distance ne sera pas la même, quel que soit le mode, le trajet dure en moyenne 3h05. Après, ce que je voudrais partager avec vous, c'est, selon le moyen qu'on va utiliser, eh bien, l'énergie unitaire va être assez différente. Ça, j'ai emprunté ça à Jean-Marc Jancovici, sur son cours. Et vous avez donc la consommation d'énergie par passager kilomètre en grammes équivalent pétrole. J'ai évoqué tout à l'heure le joule communauté, mais on peut avoir une équivalence. Alors vous voyez ici que donc ça c'est exprimé en passagers kilomètres. Donc la bicyclette, on est à 2 grammes équivalent pétrole par kilomètre. Et quand vous prenez un avion court-courrier, on est aux alentours de 40. Donc ces modes de mobilité aboutissent à des distances parcourues très différentes en plus, ce qui fait que vous avez évidemment un facteur d'autant plus important qu'on prend le moyen le plus moderne et le plus performant. Alors si on regarde un peu l'histoire, là j'ai pris une donnée qui nous vient des États-Unis, où sur un siècle, on voit finalement la façon dont les Américains ont progressivement adopté des modes de transport plus modernes, où l'on voit la distance. Donc il y a donc 140 ans, ils étaient comme au Ghana, hein, la distance parcourue par jour était de l'ordre de 4 km, parce que c'était la marche. On voit la montée en puissance de l'automobile, l'arrivée de l'avion, et donc dans les années 2000, un Américain moyen, effectivement, comme on l'a montré tout à l'heure, parcourait un peu plus de 80 km par jour en moyenne, parce que toujours la conjecture de Zahavi, le temps de transport correspondant était resté le même de l'ordre de 1 heure. Quoi. Alors ça, c'est une chose, l'augmentation des distances. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que du coup, l'énergie nécessaire pour faire ce trajet quotidien, lui, a été multiplié par 200. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est 100% du fossile. Donc par rapport au point qu'on évoquait tout à l'heure, on voit bien que là, on va avoir un petit problème dans le futur. Je vais maintenant partager avec vous quelques ordres de grandeur pour les déplacements des personnes, pour que vous voyez un petit peu quelques chiffres, où j'ai pris donc plusieurs. Alors j'ai pris la marche à pied, le vélo, le TGV, la voiture ou l'avion, avec à chaque fois des distances qui sont homogènes au type de transport que l'on a. Donc qu'on l'exprime en mégajoules, évidemment échelle logarithmique compte tenu des écarts, et ensuite j'ai mis les ratios. Donc faire 6000 km en avion, eh bien ça demande 6500 fois plus d'énergie que 4 km à pied, mais vous devez savoir ça aussi, faire 400 km en TGV, ça demande 10 fois moins d'énergie que de le faire en voiture. Si maintenant on regarde un peu le même genre d'exercice pour les marchandises, là, j'ai pris l'exemple d'un colis de 10 kg qui peut soit être livré par un vélo cargo sur 10 km, sur un fourgon pour faire 150 km, un camion sur 1000 km, par un porte-conteneur sur 10 000 km ou un avion si on a besoin de le convoyer très vite. Et là aussi, je vous ai mis les ratios. Alors, ce qui est intéressant et ce qui va expliquer aussi que la mondialisation a augmenté énormément les déplacements ou l'approvisionnement à très longue distance, finalement, transporter un colis de 10 kg sur 10 000 km en porte-conteneur ne demande que 18 fois plus d'énergie que 10 km en vélo cargo. Donc, ça explique aussi que la mondialisation a encouragé donc le convoyage d'objets qui viennent de l'autre bout du monde parce que l'énergie correspondante n'est finalement pas dans un ratio très important. En revanche, si vous devez amener un colis en urgence par avion, là, c'est pas 20 fois plus, c'est 6500 fois plus, quoi. Bon, ça, c'était pour un colis de 10 kg quand même, pour aussi que vous ayez quelques ordres de grandeur. Un porte-conteneur donc, qui, aujourd'hui, peut convoyer 20 000 conteneurs de 20 pieds, ça consomme, alors là, c'est en, je l'ai exprimé en mégajoules, donc vous êtes à 10 puissance 13 mégajoules, et donc ça consomme environ 120 tonnes de fuel par jour. Bon, par rapport au fourgon vélo cargo, on n'est évidemment pas du tout sur la même sorte de grandeur. Alors, sachez, en revanche, c'est aussi ce qui confirme un peu ce que j'évoquais sur la mondialisation, les transports intercontinentaux représentent plus de 80% du commerce mondial, si on le considère en masse transportée, mais ne représentent que 25% de l'énergie totale du secteur transport. Donc c'est un transport qui a été beaucoup optimisé par l'effet d'échelle. Donc voilà, je voulais vous donner ces quelques éléments sur la mobilité. Maintenant, on va passer au troisième point qui est l'addiction de la mobilité au pétrole. Alors, ce qui est intéressant ici, j'ai mis donc, au fil du temps donc, la consommation de pétrole depuis 1971 à 2019, c'est une donnée qui me vient de l'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, où j'ai matérialisé donc les différents modes de transport qu'on a vus hein, et qui utilisent le pétrole. L'élément intéressant, c'est que le transport donc, consomme 65% du pétrole qui est produit, c'est ce qu'on voit ici, et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il en dépend à 98%. C'est-à-dire 98% de l'énergie utilisée pour les transports, c'est du pétrole. Donc maintenant, se passer du pétrole, vous voyez que ça va demander, c'est un petit challenge. Alors, sachant qu'on a deux secteurs qui sont en très forte croissance, vous avez le trafic aérien. Ici, vous avez donc depuis les années 50, donc finalement la croissance, alors c'est exprimé en milliards de kilomètres passagers. Et puis le transport maritime, là donc c'est en millions de tonnes donc au fil du temps. Et ce qui ressort de ces tendances, c'est que le trafic aérien a doublé entre 2000 et 2015. Bon, il y a eu le gros coup d'arrêt avec le Covid, mais ça reprend cette tendance. Il y a une croissance de 6% par an. De même, le trafic maritime, lui, il a doublé entre 2000 et 2020. Aujourd'hui, la tendance continue à se propager. Alors, pourquoi le pétrole est-il si choyé pour le transport? En fait, pour un véhicule, il y a trois caractéristiques qui sont essentielles. La première, c'est la capacité à transformer l'énergie du combustible en mouvement. Quand il y avait le charbon, il fallait le brûler pour chauffer de l'eau, faire de la vapeur et entraîner une machine à vapeur. Avec des dérivés du pétrole, on peut le mettre dans un moteur à combustion interne. Donc, c'est beaucoup plus simple. Il faut une densité d'énergie de façon à diminuer le volume mort. On va y revenir juste après. Et puis, il faut aussi avoir une facilité de remplissage du stock à bord. Tout ça, le pétrole est imbattable sur ces trois caractéristiques. Si on regarde sa densité d'énergie, je préfère la densité volumique, donc les kilowattheures par litre, puisqu'en fait, je rappelle, un véhicule, il doit convoyer soit des personnes, soit des biens. Et donc, il faut du volume. Alors, vous avez un tableau là qui résume, alors je l'ai exprimé en kilowattheures par litre, et vous voyez que les carburants pétroliers, que ce soit le gazole ou le kérosène, on est à 10 kWh et demi par litre. Le méthane, quand on le comprime à 200 bars, on n'est plus qu'à 1,9. L'hydrogène, on peut le stocker sous 700 bars ou en liquide. Là, on est aux alentours de 2. Et puis, une batterie lithium-ion actuelle, on est à peu près à 0,6 kWh par litre. Ce que Jean-Marie vous a montré, c'est qu'il y a des potentiels pour le tout solide. Mais vous voyez déjà les ordres de grandeur. Et en plus, donc, c'est un liquide qui est très facile à convoyer. Donc le pétrole est de loin la source d'énergie la plus pratique pour tout type de transport. Malheureusement, elle entraîne des émissions qui sont néfastes. Alors, la responsabilité environnementale du transport, donc le pétrole, je le rappelle, assure 98% de l'énergie utilisée. Il est responsable de 14% de l'impact climatique par les émissions de CO2. Ça, c'est au niveau monde. Alors, dans les pays industrialisés comme l'Europe ou les États-Unis, on est plutôt aux alentours de 20-25. Et puis, il est également responsable d'émissions toxiques en termes de qualité de l'air, soit pour les oxydes d'azote, soit pour les particules. Donc, le transport devrait se débarrasser du pétrole d'ici 2050. C'est notamment en Europe ce qui est envisagé avec la perspective de passer au tout électrique en 2035. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, est-ce qu'on peut trouver une mobilité qui se passe d'énergie fossile ? Donc on va regarder quelques exemples. Donc il y a des alternatives comme les biocarburants de deuxième génération, donc qui eux utilisent les déchets de la végétation, hein, pas les graines. Alors, c'est une étude qui vient du Konkawe qui a montré que, alors selon un jeu d'hypothèses que je vous épargne, on considère que ces biocarburants de deuxième génération pourraient remplacer le pétrole dans une proportion qui est entre 15 et 60%. Donc, dans tous les cas, ces biocarburants ne pourront jamais se substituer au pétrole entièrement. Et si on est pessimiste, on voit qu'il y a quand même 85% à trouver autrement. Alors, se passer du pétrole est un défi immense et selon les modes de transport qu'on a vus, le défi est plus ou moins compliqué. Les types de transport qui sont en grande difficulté, c'est l'aérien, le maritime et la route pour les marchandises. Il y a un mode qui a un potentiel de réussir sous certaines conditions, c'est la route pour les voitures particulières. Et bien entendu, le ferroviaire, lui, a déjà la solution. Donc, la croissance du trafic aérien et maritime est donc préoccupante. Alors, on va les regarder une à une, mais assez rapidement. Bon, pour le transport maritime, il y a trois axes qui sont possibles. Le premier, c'est la sobriété. En réduisant les vitesses, alors aujourd'hui, donc, c'est exprimé en nœuds, hein, donc en 1000 marins par heure. Donc passer de 14 nœuds, ce qui est la vitesse moyenne actuelle, à 12 nœuds, fait gagner 35%. Hein, l'hydrodynamique, c'est comme l'aérodynamique, ça a rapidement un impact. Il y a comment réduire le trafic, être plus optimisé. Après, il y a des carburants de synthèse ou bio, donc il y a le gaz naturel liquéfié, mais dans ce cas-là, en pensant au méthane d'origine organique. Il y a l'ammoniac ou le méthanol. Et puis, il y a le vent. Alors, j'ai mis l'exemple ici. Ariane Espace a construit un cargo qui convoie donc, les étages de la fusée Ariane avec ce cargo qui est en partie motorisé par le vent. C'est sans doute pas adaptable aux très grands porte-conteneurs qu'on a vu tout à l'heure, de 20 000 porte-conteneurs, mais ça fait partie des voies. Et l'Organisation mondiale maritime a pris l'engagement de réduire de 50% le CO2 d'ici 2050. Donc pas de tomber à zéro, mais en tout cas de réduire de 50%, donc sans doute en faisant une combinaison de tout ça. Pour le transport aérien, c'est un peu le même schéma. La figure vient de l'Organisation internationale de l'aviation civile, l'ICAO, où ils ont fait toute une projection en prenant une combinaison d'actions. Mais là, vous voyez aussi que leur objectif, c'est d'ici 2050, avec une augmentation du trafic qui continue sur la même tendance qu'on a évoquée, de stabiliser l'émission de CO2 et donc de garder la même dépendance aux fossiles. Alors, les axes sont similaires aux maritimes. Hein, la sobriété, ça peut être la baisse des consommations, comme on peut le voir ici, avec des technologies plus efficaces, hein, des meilleurs réacteurs, une optimisation du trafic. Il y a des carburants de synthèse comme le biocarburant, les e-fuels. Je n'ai pas mentionné l'hydrogène. Dans les questions, on pourrait y revenir, mais l'hydrogène, lui, n'est pas disponible à l'état natif. Il faut le produire. et il faudrait le stocker sur un avion, ce qui n'est quand même pas très simple. L'électrification pourra être utilisée sous forme d'hybridation, notamment pour ce qu'on appelle le roulage taxi sur aéroport pour les courts courriers, c'est utile. L'électrique pour le court courrier, là aussi, semble évoqué, mais je pense pas forcément très très adapté. Petit ordre de grandeur, j'ai remis aussi un vol Paris-New York avec un Airbus A350 qui est l'avion aujourd'hui le plus moderne, donc qui a le meilleur rendement. Il embarque 45 tonnes de kérosène pour faire le trajet. Donc si on devait l'animer par des batteries, vous avez vu tout à l'heure le ratio d'au moins un facteur, il y avait un facteur 20, mettons qu'on avait un facteur 10. S'il fallait 450 tonnes de batterie pour faire le trajet, c'est vous oubliez quoi. Donc, un transport aérien décarboné, est-ce que c'est compatible avec la croissance du trafic? On peut avoir quelques doutes. Il faudra probablement accepter de mettre toute cette technologie que j'ai évoquée et sans doute de se contraindre un peu. Le transport routier du fret, là aussi je vais passer assez vite. Donc là, toujours le même mécanisme. Alors, 62% des émissions proviennent des longues distances. Hein, donc ce n'est pas la distribution dernier kilomètre, hein, c'est quand même les longues distances qui consomment le plus de carburant. Donc là, il y a différentes choses possibles. Il y a le report modal vers le ferroviaire ou le fluvial, notamment pour ce qui est en vrac. Un meilleur remplissage des camions, c'est un souci des logisticiens, mais il faut savoir qu'un cinquième des kilomètres est fait à vide. Vous savez qu'on importe pas mal de produits de l'Est de l'Europe. On leur renvoie peu de choses puisqu'on ne fabrique pas grand-chose à l'ouest. Donc, il y a pas mal de raisons de faire venir de l'est vers l'ouest. Dans l'autre sens, c'est plus difficile. Après, il y a le platooning qui semble une voie qui est aussi évoquée avec donc, une connexion entre les véhicules. On peut réduire les vitesses à 80 km/h. L'électrification, il y a la route électrique sur des grands axes qui fait partie des projets qui sont évoqués au niveau européen. Des acteurs comme Vinci Autoroutes sont assez engagés là-dessus, par exemple. Et puis, évidemment, des batteries avec charge rapide peuvent être des compléments, mais sur les longues distances, vont avoir du mal à s'imposer. Et puis, il reste, on évoquait tout à l'heure, des biocarburants qui peuvent être un complément sur les usages qui ne seraient pas couverts. Donc là aussi, pour le transport routier du fret, il faudra probablement avoir une combinaison de ces nouvelles technologies et d'une part de sobriété. Je vais terminer par la voiture particulière. Jean-Marie m'ayant demandé de faire un petit zoom dessus. Alors pour la voiture particulière, bon, l'électrification, c'est la meilleure option pour remplacer le pétrole, mais ça ne va pas se faire sans changement, sans effort. Donc il faut, pour que ça marche, il faut que la production électrique soit indépendante des énergies fossiles. C'est le cas en Suède et en France. Dans le reste de l'Europe, ça n'est pas encore le cas. Prenons le cas de la Pologne, par exemple, hein, qui est majoritairement au charbon. Il faut aussi un réseau de bornes de recharge qui soit pertinent et assez dense. Mais si on veut viser de la sobriété, il faut avoir en tête que le parc qui roule est 20 fois plus important que ce qui se vend chaque année. Donc si on ne s'occupe que des nouveaux véhicules, on est sûr de devoir consommer du pétrole encore très longtemps. Donc il faudra à la fois produire des nouveaux véhicules qui soient le plus décarbonés possible, mais il faudrait aussi avoir un meilleur usage de la flotte. Donc là aussi, ben, il faut réduire les distances. Le télétravail peut être une des voies. Pratiquer la multimodalité. Ne pas tout faire avec ce couteau suisse qu'est la voiture. Partager les trajets, ça c'est le covoiturage. Et baisser la consommation des véhicules, là il y a encore des potentiels. Donc la voiture électrique, je pense que c'est important de le partager ici. Ce ne sera pas la baguette magique. Elle va jouer un rôle important. Mais elle ne va pas tout résoudre, il faudra aussi un peu de sobriété. Alors qu'est-ce qu'il y a comme alternative au pétrole pour les voitures? Donc j'évoquais déjà les biocarburants de deuxième génération, on a vu tout à l'heure que ça ne fera pas le transfert, on estime que ça pourrait peut-être couvrir 20 à 30% des besoins, mais c'est en compétition avec d'autres secteurs comme l'aviation, le véhicule industriel. Il y a les e-fuels, donc qui consistent, c'est le procédé Fischer-Tropsch, qui consiste à partir de CO2 et d'hydrogène, de refaire des hydrocarbures. Pour ça, il faut de l'énergie. En fait, la chaîne des rendements est assez mauvaise. Elle est à peu près 7 fois plus mauvaise que d'alimenter un véhicule électrique. Donc c'est possible, mais c'est manifestement pas excellent en termes de bilan énergétique et il y a un coût qui est dissuasif. L'hydrogène, il est séduisant aussi, mais il n'est quand même pas très adapté. Le stockage à bord est encombrant. Je vous ai montré tout à l'heure l'écart de densité volumique. C'est quand même 5 fois moins bien que du carburant pétrolier, donc il faut trouver la place. La chaîne des rendements est meilleure que les e-fuels, mais c'est quand même 4 fois plus mauvais que le véhicule électrique à batterie. Les capacités de production sont limitées, et puis c'est en compétition avec d'autres besoins industriels, puisque l'hydrogène est utilisé pour produire des engrais, des ciments, etc. Donc l'électrique à batterie, c'est ce qui est le plus prometteur. Seulement, il y a quelques conditions. Les usages sont encore contraints sur longue distance. Les ressources en minéraux ne sont pas forcément assurées. Et là, ce que Jean-Marie a partagé, je pense, l'usage du sodium peut être un moyen de se donner davantage de latitude. Le cobalt est aujourd'hui un limitant, donc on a quelques limitations là-dessus. Et puis, il faut une coordination nécessaire avec le réseau électrique pour les recharges. Donc, BEV, le plus prometteur, mais sous condition. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que si on veut le fossile, le pétrole, n'est pas utilisé que pour l'usage du véhicule, mais il est aussi utilisé pour le produire et pour le désassembler. Et donc, ce qui est très important, c'est de prendre l'ensemble du cycle de vie, depuis la fabrication jusqu'à la fin de vie de l'objet, et puis sur toute la chaîne qui produit l'énergie. On appelle ça, dans notre jargon, du berceau à la tombe pour le véhicule et du puits à la roue pour le combustible ou l'énergie. Donc l'énergie, quand on a parlé d'électrique, si elle est produite à partir de barrages hydroélectriques ou de nucléaire, c'est très très bas carbone. Si c'est produit à partir du charbon, c'est une autre question. Donc c'est très important, quand on considère ces nouveaux véhicules, de prendre vraiment du berceau à la tombe et du puits à la roue. Et quand on fait ça, ça c'est une donnée qui nous vient de l'ADEME. Alors vous voyez ici, c'est des véhicules de classe équivalent. Donc c'est du segment C, c'est-à-dire une Renault Mégane, une Peugeot 308. En fait, on voit quand on prend, alors ils l'ont exprimé en grammes CO2 équivalent par kilomètre sur un kilométrage qui devait faire 12 500 km par an. En fait, vous voyez que alors, selon la production électrique, une voiture électrique avec une batterie de 40 kWh serait proche de 50 grammes de CO2 équivalent par kilomètre. Un véhicule qui utiliserait du biocarburant de l'E85 n'est pas très loin. Par contre, évidemment, par rapport à un véhicule essence, on est 2 à 2,5 fois moins. Donc tout ceci pour vous dire qu'il ne faut pas compter que la consommation d'énergie à l'usage, mais il faut bien prendre tout le cycle de vie. Et dans le cas d'un véhicule électrique, la production du véhicule compte pratiquement autant que l'usage. Je vais aller assez vite parce que je vois que le temps passe et que je ne suis pas forcément très en avance. Ici, je vous ai pris, alors ça vient d'une étude qu'on a faite dans mon association, organisation La Physita, où on a comparé. Donc c'est pour vous dire que la production électrique est régionale. Alors ici on a pris 3 véhicules du même segment, donc une voiture diesel, une voiture électrique et une voiture essence hybride. Alors en Chine, à cause de la production électrique qui est très carbonée, il se trouve qu'une Nissan Leaf électrique sur 180 000 km aura consommer autant de fossiles, donc émis autant de CO2 pratiquement que la voiture diesel. Mais si on la prend en Europe, évidemment c'est beaucoup beaucoup mieux aujourd'hui, et si on prend les projections 2030, là il y a un gros écart. Bon, qu'on peut revoir sur une planche qui est exprimée différemment. Donc retenez ça, c'est qu'en Europe, l'utilisation de la voiture électrique est vraiment un axe qui est très porteur à cause de la production électrique qui est déjà bonne et qui va s'améliorer. Mais dans d'autres régions du monde, ce n'est pas nécessairement le meilleur chemin pour décarboner. Après, si on veut se projeter pour voir quelle est l'asymptote, on a fait aussi l'exercice. Alors, ça se base sur des études de Ricardo et de La Physita. On considère qu'en mettant absolument tout ce qui est possible, donc une électricité qui est produite qu'avec des éoliennes, du nucléaire ou de l'hydraulique, des aciers qui sont faits sans charbon mais avec de l'hydrogène, enfin vous prenez tout ce qui est possible pour complètement décarboner, eh bien on ne peut pas arriver à zéro. On estime qu'en mettant absolument tout ce qui est possible sur la table, on pourrait descendre à une tonne de CO2 sur l'ensemble de la vie du véhicule, à comparer quand même aux 80 tonnes d'aujourd'hui. Mais en tout cas, on ne peut pas descendre à zéro strictement, il y aura toujours une émission. Et on pense qu'il y a une étape intermédiaire dans la zone des 2030-2035 où on aura déjà fait un progrès en Europe. Je vais terminer par quelques slides. Alors, on a beaucoup parlé de batterie. Je pense que c'est important dans ces véhicules électriques. Quels sont les critères de performance pour ces batteries? On peut les résumer en six critères importants. Il y en a deux qui sont totalement incontournables. C'est la sécurité. Jean-Marie a terminé par ça. Il y en a un deuxième qui est la sustainabilité, en fait, la compatibilité avec les ressources de la planète. Après, les quatre autres sont finalement à chaque fois, quand on gagne sur une dimension, on perd sur une des deux autres. Évidemment, les meilleures technologies sont celles qui permettent d'élargir le cercle le plus possible. Donc, c'est ça que l'industrie automobile attend. Et si on parle des ressources, ici, j'ai rappelé que le sodium fait partie des ressources qui, elles, sont largement plus disponibles que pourrait l'être le lithium, par exemple. Donc voilà, la technologie idéale doit gagner sur six critères. Après, est-ce que les véhicules électriques pourront se substituer aux véhicules thermiques? Alors, j'ai repris une planche là, que Jean-Marie m'a passée qui montre finalement un ensemble de perspectives sur les progrès en densité d'énergie. Encore une fois, je préfère prendre l'échelle volumique. Et j'ai rappelé le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. On voit qu'on pourrait atteindre 1400 watt-heure par litre avec ce genre de technologie. Donc ça fera passer de 0,6 à 1,4. Mais on n'est toujours pas du tout à l'ordre de grandeur du carburant. Donc, dans le meilleur des cas, la densité volumique pourrait atteindre un dixième de celle des carburants pétroliers. Donc ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Ce qui fait que pour l'aviation, je pense qu'il faut tout de suite se dire que l'avion électrique, long courrier, n'a aucun sens. Après, si on veut généraliser le véhicule électrique, quelles sont les conditions? Donc, il y a l'environnement, réduire l'empreinte carbone, réduire la consommation de minéraux. Côté client, il faut arriver à un coût qui soit équivalent au véhicule thermique, que le rayon d'action, c'est-à-dire la distance que l'on peut faire sans être limité par le conducteur, et puis une moindre sensibilité au froid, puisque une batterie perd en capacité quand il fait plus froid, et un réseau électrique qui soit adapté. Donc le défi sera de minimiser la taille des batteries et surtout de ne pas rentrer dans la course à l'armement sur la taille des batteries. Donc, je voudrais conclure là-dessus, après avoir donné tout ce panorama. Ce qui me semble important que vous puissiez retenir, c'est que la mobilité, donc, c'est pas la conséquence de la prospérité, c'est bien l'inverse. Donc, c'est important d'arriver à maintenir une mobilité, une circulation des biens et des personnes. Elle dépend aujourd'hui à 98% du pétrole, dont nous devons nous affranchir d'ici 2050. Vous voyez l'enjeu. Les transports maritimes et aériens n'ont pas de solution disponible pour maintenir la croissance de leur trafic sans le pétrole. Donc la sobriété sera absolument incontournable. D'autres secteurs comme le transport routier disposent de l'alternative électrique, mais cela va exiger de profondes mutations. Et je pense que dans tous les cas, il faut se faire à l'idée que nous devrons combiner les solutions technologiques qui vont vraiment continuer à apporter des progrès avec une nécessaire sobriété pour nous affranchir du pétrole et plus largement des énergies fossiles. Je vous remercie de votre attention.
Bonsoir. Alors, je vais aller vite, mais c'est bien parce que je vais couvrir des concepts normalement assez simples pour essayer de positiver, amener un peu d'oxygène, se dire que peut-être qu'il y a des voies, des solutions. Bon, le contexte, vous l'avez tous vu sous une forme ou une autre, c'est que le secteur public en général est total un petit peu, aide à faire de la recherche de base. Et puis à un moment donné, quand on se dit qu'on est prêt pour l'industrialisation, il n'y a plus personne pour donner de l'argent. Et c'est la question qui a été posée à Bill Gates en 2015 lors de la COP21. Et Bill a dit, ben, moi je connais qu'une seule façon de le faire. Et même si Bill Gates en France, c'est un peu le grand méchant loup, hein, moi j'ai grandi dans la fin des années 90 où il y avait un peu la Microsoft, c'était le grand méchant loup. Mais Bill, c'était quand même chez IBM quand il avait 14 ans et que donc il faisait du child labor, hein, du travail avant d'être majeur. On l'appelait le Tang Kid. On le payait, vous savez, le Tang, la petite poudre jus d'orange qu'on mettait pour reconstituer une boisson à l'orange, il était payé par les gens d'IBM qui ne savaient pas corriger leur code informatique de cette façon-là. Donc c'est quand même quelqu'un qui travaillait et qu'il faut respecter. Et il a dit, la seule chose que je sais faire moi, c'est investir dans la recherche et puis faire sortir des startups qui vont venir un peu bousculer le statu quo. Et je suis très content d'entendre l'exposé de Jean-Marie et puis ce dont on a parlé sur la voiture, est-ce qu'il faut faire comme ci, est-ce qu'il faut faire comme ça. Et ça, c'est plein de débats et au final, on en arrive à quelqu'un comme Tesla qui dit « moi, je peux faire une voiture électrique » et tout le monde lui dit « tu n'y arriveras jamais » et puis quand ils y arrivent, leur valorisation explose. Donc la solution de Bill Gates, c'était de former un grand groupe qui s'appelle Breakthrough Energy. Alors là, je me suis amusé un peu parce que moi, je les ai en anglais, donc j'ai fait faire traduire par ChatGPT. Vous aurez les slides chez vous, vous verrez, c'est pas encore génial, hein, mais donc on peut essayer de faire mieux. Alors nous, on a la même version de ce que vous avez vu avant. On aide à faire de la transition de la recherche basique vers le stage start. Mais bon, c'est la même chose, hein. Et donc moi, plus particulièrement, je suis dans le domaine de ce qu'on appelle ventures, et donc c'est l'investissement dans le capital des startups. Donc on a trois véhicules pour le moment, c'est ce qui s'appelle dans notre jargon des véhicules. On a un fonds qui s'appelle BEV1, qui est celui dont je viens de parler, que Bill Gates avait aidé à former, qui faisait 1,1 milliard de dollars. Donc c'est une somme qui paraît colossale, mais quand on regarde au rapport des genres de changements qu'on doit créer, c'est en fait rien du tout. Hein. Total peut dépenser ça pour son petit déjeuner. C'est pas un combat très équilibré pour le moment en tous les cas. BEV2 qui a lancé en 2021, fait 1.2. Et puis moi, plus particulièrement, je m'occupe dans l'Europe. Alors évidemment, vous voyez, hein, comme d'habitude, les États-Unis sont bien servis, puis l'Europe un peu moins bien. Mais quand même, je le dois à Bill Gates, qui a vraiment insisté pour qu'on ait des gens sur l'Europe qui travaillent avec les startups. Et donc nous, on a un filtre un peu particulier, c'est que quand on regarde une startup, donc une plateforme de technologie comme une batterie, on se pose la question extraordinairement compliquée et essentiellement de l'ordre du pari de se dire... Est-ce qu'en 2050, on imagine que cette nouvelle technologie, donc en 2050, puisqu'on se place en 2020 et que les brevets durent 20 ans, le brevet sera dans le domaine public, donc il s'agit bien d'une technologie qui deviendra pervasive, hein, comme le PC, comme les LED, comme les batteries de voitures qui sont maintenant, toutes les batteries anciennes sont dans le domaine public. Donc ça doit être vraiment un courant de technologie qui s'impose à la société. Et nous, on se pose la question, est-ce que ça peut devenir 0,5 gigatonnes par an de CO2 équivalent? Alors, je vais simplifier pour vous. L'ordre de grandeur 0,5 gigatonnes, quand on fait les calculs un peu avec les mains, c'est est-ce que ça va être présent dans 100 millions de véhicules personnels? Est-ce que si on fait de la fusion nucléaire, c'est 100 gigawatts de réacteurs installés, donc 100 réacteurs environ. Un REP en France, c'est 1 gigawatt électrique. C'est l'ordre de grandeur. Et ce sont des fonds de 20 ans. Notez bien ça parce que j'y reviendrai un peu plus tard. D'où ça vient le capital risque? Eh bien, c'est encore un Français. Voilà. Alors, on a du mal en France, mais quand même, c'est un Français qui a émigré aux États-Unis, donc le brain drain à l'époque, hein, Jean-Frédéric Doriot, qui était à Harvard et puis qui a levé 5 millions en 1946. Alors, ça a l'air de rien, mais c'était quand même l'équivalent en actualisé 2024 de 84 millions. Et il a créé quelque chose qui s'appelait ARD. Et puis, il s'est dit aux alentours du MIT, il y a quand même des gens qui travaillent avec des transistors et qui essayent de faire des ordinateurs rudimentaires. Hein. Ça ressemble un peu aux ordinateurs quantiques d'aujourd'hui. On ne sait pas trop quoi en faire. C'est du kilo-octet de genre d'informations retenues, hein, les disques de l'époque. Et il investit 70 000 dollars. Alors à l'époque, les calculs qu'ils avaient faits, c'était si j'investis sur quelque chose, on ne sait pas trop ce que ça va donner, je vais prendre 70% de la compagnie. Donc je leur donne l'équivalent de un peu moins d'un million de dollars en actualisé 2024. Et en l'échange, les entrepreneurs me donnent 70% de la compagnie. Alors maintenant, on fonctionne un peu différemment et j'essaierai d'expliquer assez rapidement pourquoi si j'ai le temps. Et puis ça a fait son entrée dans les bourses financières et ça s'est transformé en 29 millions de dollars. Donc les gens ont dit, c'est quand même intéressant de transformer 70 000 dollars en 29 millions. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et alors c'est vraiment la base, hein, le capital risque, c'est quand même essentiellement une classe d'actifs ou des gens qui ont de l'argent et qui veulent faire fructifier cet argent, hein, vraiment théoriquement. Alors, des fonds de pension, par exemple, qui s'occupent de faire fructifier l'argent de leurs retraités, hein, littéralement, ou alors des fonds d'investissement sur Wall Street. Et comme vous le voyez sur cette petite... alors, ce qui est intéressant avec le capital risque, hein, ça, c'est un nombre à retenir. Donc, l'ordre de grandeur, si on donne au capital risque 10 dollars ou 10 euros et qu'on dit combien tu me ramènes en plus chaque année, ça travaille entre 10 et 15%. Donc ça n'a pas l'air extraordinaire. Les meilleurs travaillent à 30-35%. Les moins bons ne vous rendent pas votre argent. Hein, quand c'est négatif, c'est un peu problématique. Donc, est-ce que ça marche, cela dit ? Oui, ça marche. Alors, si on prend la capitalisation boursière aux États-Unis, c'est indéniable. Hein. Donc, si vous regardez, il y a Tesla ici, hein, qui pointe le bout de son nez. Alors, évidemment, c'est essentiellement des ordinateurs et même du software. Hein. Pendant un temps, il y avait Intel. Intel a dégringolé. Maintenant, c'est essentiellement du software. Alors, Apple fait un peu de hardware hein, quand même, parce que quand on vend un téléphone à 1000 euros, ça fait quand même de l'argent. Mais toutes ces compagnies, et Berkshire Hathaway, c'est une compagnie qui investit dans d'autres compagnies, et Eli Lilly, c'est de la pharma, donc ça a racheté plein de startups. Donc, toutes ces compagnies ont été fondées par du capital risque. Hein. Entre parenthèses, 3 trillions de capitalisation, c'est le PIB de la France. C'est le PIB de la France. Donc ça marche quand même pas mal. Et l'ordre de grandeur, c'est que le capital risque qui crée ces compagnies, hein, c'est la crème de la crème, et ça attire beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'investisseurs. Le capital risque, il dépense, l'ordre de grandeur, c'est 0,5% du GDP américain pour créer ce genre de compagnie-là. Donc, ça crée de l'engouement vraiment basé sur une rentabilité financière. Il n'y a pas de vocation particulière. Donc, dans le cadre du climat, on se pose la question, est-ce qu'on peut arriver à ce genre de choses ? Alors, on a la chance quand même d'avoir Tesla qui pointe le bout de son nez. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont lu une des nombreuses biographies ou littérature disponible, vous saurez que Tesla, l'histoire est un peu plus compliquée que ça, puisque Elon Musk, fort de sa fortune, a soutenu à bout de bras la compagnie quand beaucoup d'autres financiers refusaient de la soutenir à des moments difficiles. Mais ça n'en reste pas moins une compagnie qui n'aurait pas existé sans le capital risque. Alors, en France, c'est plus compliqué. Hein. J'ai fait le calcul. Une entreprise comme Neoen, hein, qui sortait d'énergie nouvelle, un polytechnicien qui a fait ça et qui s'est contenté, c'était quand même innovatif à l'époque, hein, fin des années 2000, avant le crack, il s'est dit, je vais faire des parcs éoliens et des parcs solaires parce que personne n'y croit ou les grands n'y sont pas. Il a trouvé un moyen de se faire financer et puis bon, il a monté une capitalisation boursière. Mais en France, quand même, la majorité des compagnies qui sont les mieux cotées, c'est des compagnies qui existent depuis très longtemps. Et ça reste un des problèmes, on va dire, de l'environnement européen où les belles poussent, soit elles se décalent sur le marché américain, qui est le marché un peu le plus vivant, soit elles sont rachetées à des moments opportuns par les entreprises qui existent déjà, et elles ne deviennent pas des exemples qui font que les gens intéressés un peu par l'idée de porter leur innovation, puis peut-être un jour être des capitaines d'industrie, n'y arrivent pas aussi bien. Exactement, Sanofi, c'est une start-up. Voilà, oui, c'est une sorte de start-up. On peut la compter. Alors ça, je vais y aller très vite, mais le jargon qu'on utilise nous, hein, qui est plus ou moins traduit, c'est d'abord, on sort du laboratoire. En général, c'est des prêts d'honneur, des concours. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis un peu de façon d'un peu tendre, le FFF, donc Friends, Family and Fools. C'est les premiers qui croient en quelque chose quand on n'est pas du tout sûr que ça va donner un volume d'affaires qui marche. Puis après, on passe à l'amorçage. Et là, j'ai mis deux flèches bleues pour montrer l'endroit où, dès que les besoins deviennent un peu importants, eh ben, il faut un système un peu institutionnalisé et où c'est en général des fonds de capital risque comme celui que je représente qui viennent investir. Hein. Et vous voyez, je vous ai mis les montants investis US qui, en tous les cas, au début, sont largement plus importants que les montants investis France. Et puis, à un moment donné, au niveau de ce qu'on appelle la série A, la série B, donc quand la technologie commence à un peu avoir fait ses preuves, il y a un intérêt client, quand on fait la levée de fonds, les choses s'ajustent un peu. Mais vous voyez que l'ordre de grandeur, et particulièrement pour tout ce qui est technologie du climat, c'est que à un moment donné, il va falloir monter des usines pour transformer l'idée originale en un produit qui sort, et les besoins en fonds de capitaux vont être assez importants. Et puis la dernière chose qui est un peu importante, c'est quand même à un moment donné, Comme je vous l'ai montré, l'intérêt, il est vraiment capitalistique et financier. Donc, quand moi, en tant que capital risqueur, je viens et je vous donne 5 millions d'euros pour capitaliser votre société, à un moment donné, il faut trouver un mécanisme pour que cet argent me revienne avec son multiplicateur. Et là, c'est ce qu'on appelle une sortie. Et les deux grands mécanismes de sortie les plus courants, c'est soit ce qu'on appelle le merger and acquisition, donc je revends ma compagnie à une plus grosse compagnie. Donc, Sanofi en est un exemple, par exemple. Ou alors, une initial public offering, IPO, donc c'est rentrer en marché boursier. Oui, il faut que je me dépêche un peu. Bon, un investissement, ça reste, par rapport à vous qui faites de la recherche avancée ou des thèses, ça reste qu'une règle de 3. Hein, c'est-à-dire que, en gros, je vous dis, je vous donne 5 millions et puis j'estime que la valeur de la boîte, c'est 10. Donc, avec mes 5 millions, 10 plus 5, ça fait 15. Et donc, j'ai investi 5 par rapport à une boîte qu'on dit qui vaut 15 et donc j'ai 33%. Et vous, si au départ, avant mon investissement, vous aviez 100% de cette compagnie, c'est un peu plus compliqué, vous avez maintenant plus que 66 puisque j'ai pris 33. Et là, vous allez me dire, puisque vous avez des degrés avancés, ça ne boucle pas, il reste 1%. Et j'ai fait exprès, c'est parce que on n'est pas dans l'univers de la science, on est dans l'univers d'une activité humaine économique, c'est du business. Et donc, on s'entend, on finit par dire, bon bah, on va arrondir à l'inférieur ou au supérieur, on a des documents qui font 60, 80, 90 pages, avec ce genre de choses où on s'entend sur, bah finalement, quand je divise 5 par 15, ça fait 33, comment ça marche? Eh ben, on s'entend, en tant qu'humain, on fait des accords, on fait des contrats. Et c'est un peu l'univers. Alors, pourquoi ça vaut 10 millions? Pourquoi ça vaut 5 millions? Ça semble élevé quand même. Au départ, il y a quoi? Il y a un ou plusieurs brevets qui sont ou pas encore dans les processus pour voir s'ils sont acceptés. Il y a un savoir-faire d'une équipe en général technique qui vient pour la majorité du cas des labos. Il y a un professeur qui va donner une partie de son temps. Et puis, on l'espère, il y a quand même eu des contacts clients avec des gens qui disent « Ah ben, si ça, ça se confirme à échelle, ça m'intéresse, je l'achèterai bien. » Mais comment on sait que ça, ça vaut tant? Eh bien, il y a trois choses qui se poussent les unes les autres. Il y a les entrepreneurs d'un côté qui disent « Ben, moi, je suis prêt à céder des parts de ma compagnie pour pouvoir aider à continuer à faire de la recherche. » Il y a le marché, ce marché un peu étrange du capital risque. Et puis, il y a les fonds individuels qui disent « Ben, moi, j'ai un modèle de fonds, hein, comme le fonds dont je vous ai parlé initial, où quand je mets 5 millions, j'aime bien obtenir de l'ordre de 33% d'une... Alors, je n'ai pas trop le temps de développer, mais l'entrepreneur, il peut très bien dire, ben, moi, si tu me donnes 5 millions et que tu me dilues, hein, c'est notre terme technique, diluer, donc de 100% de ma boîte, j'en ai plus que 66, ça ne m'intéresse pas. Donc, ben, si son innovation est vraiment incroyable, eh ben, il est possible que les gens s'ajustent. Mais ça va dépendre un peu du marché. Quand je parle du marché fondamentaux et à court terme, le marché fondamental, c'est qu'il y a des exemples, ce qu'on appelle des comparables, de compagnies qui ont réussi en levant de l'argent de la façon dont je l'ai décrit, au début 1 million, puis 5, puis 20, puis 100. Et puis après, je suis passé sur les marchés comme Apple, comme Google. Il y a des compagnies qui créent un environnement où on dit, bon bah, ce genre de compagnie-là, on peut leur donner 5 millions et prendre 33%, on a une idée de ce que ça va donner. Et puis après, il y a des endroits de la vie précise économique où on est dans une situation financière plus ou moins bonne. Et l'univers du capital risque, malheureusement, c'est en général beaucoup d'entrepreneurs avec beaucoup d'idées et beaucoup moins de fonds qui sont capables de les financer. Et donc, quand les entrepreneurs ont plein d'idées foisonnantes et qu'il y a plein de fonds et que l'économie tourne à plein, eh ben, on a tendance à dire « Ah, je te veux toi » et les valorisations augmentent, hein, comme dans un marché. Il y a plus de demandes que de ventes. Et puis, il y a des moments où on est en récession économique et là, ça s'effondre assez vite puisqu'on va parler à des gens qui disent ben, « Je sais très bien qu'il n'y a plus grand autre personne à qui tu parles. » Et donc, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est l'ensemble de ces trois forces qui crée cet environnement de créer une valorisation qui peut paraître un peu élevée. Hein, dire une compagnie qui sort à peine d'un laboratoire, pourquoi vaut-elle 15 millions sur le papier? Mais c'est l'ensemble de ces forces-là. Et là, j'en arrive un peu à peut-être mon point principal. Je vous ai montré avant que le capital risque pour un peu exister auprès des financiers qui disent ben, « Pourquoi je donnerais mon argent au capital risque plutôt qu'à Renault, qui peut utiliser mon argent et progresser en bourse ?» L'idée, c'est que, ben, vous voyez le point jaune, c'est au-delà de tout le reste. Et puis les super performeurs, ils sont encore plus. Alors comment ça marche au final ? Alors je vous passe des détails, j'ai fait des modèles un peu simplifiés. Il y a un gros problème évident qui est que c'est toujours le problème des taxes. Et donc quand je vous donne de l'argent, c'est de l'argent que j'ai obtenu après avoir été taxé. Et puis quand vous êtes vendu auprès d'une société, c'est des profits, donc ça c'est taxé. Et donc je me suis un peu affranchi de ça pour simplifier la chose. Donc si vous faites le calcul, c'est vous. Vous aurez peut-être, si vous faites le calcul mathématique simple, vous aurez ces résultats-là. Si vous regardez les fonds réels, il y a toujours un ajustement lié à des frais et à des taxes. Mais bon, le cas est assez évident. Donc, ce qu'on appelle les multiples sur fonds propres, c'est je vous ai donné 5 millions comme j'ai montré, j'ai pris 33% de votre compagnie et puis à un moment donné, on la revend. Ça me retourne, mettons, 50 millions. Donc, 50 millions qui me retournent par rapport à 5 millions investis. Donc, ce qu'on appelle le multiple sur fonds propres, c'est 50 fois 5, donc 10 fois, c'est là. Et là vient le problème de… En général, en économie, on dit bah, si j'avais pu investir ces 5 millions dans autre chose, combien ça m'aurait rapporté ? Et en général, c'est en pourcent de travail par an. Et donc, même si nous, dans le capital risque, on dit bah, je donne de l'argent, j'attends une certaine période de temps où c'est complètement illiquide, c'est-à-dire que mon argent, il est dans cette start-up et je ne peux pas leur redemander mon argent, il faut attendre de voir si ça marche ou pas, une certaine période de temps, mais je compare quand même toujours au reste du marché où ça travaille. Et donc, bah, on voit bien que si je rapporte 10 fois ma mise et que j'ai attendu 7 ans pour que la start-up elle sorte, ah bah, je suis à 39%, donc je suis le meilleur, je suis le roi du pétrole. Mais si j'ai dû attendre 10 ans, maintenant je suis à 26, je rentre un peu dans le tas. Et puis si j'ai dû attendre 13 ans, ça commence à être un peu problématique. Et donc ça, c'est ce qui fait qu'il y a ce fameux doigt dans l'engrenage, quand on parle de cet univers un peu obscur du capital risque, où on vous pousse, on vous pousse, on vous pousse, et bah, c'est directement lié à ces problèmes-là. Et les problèmes de « je te donne de l'argent en l'échange d'une partie de ta boîte », ça fait partie de ce problème-là, c'est-à-dire les multiples sur fonds propres qui vont être liés au final au taux de rendement interne. C'est vraiment ça qui guide fondamentalement tout cet engrenage du capital risque et qu'il faut aller plus vite, il faut le faire maintenant. Et ça peut créer un alignement très intéressant avec les entrepreneurs parce que tout le monde aime bien faire vite et bien pour battre la compétition. Mais à un moment donné, des moments de divorce où bah, des fois, dans certains problèmes scientifiques, il faut donner le temps au temps, comme on dit. Hein, la fameuse phrase qui dit qu'on ne peut pas faire un enfant avec 9 femmes en un mois. On peut attendre que 9 mois. Et ben, ça, les capitaux risqueurs, ils ont du mal à l'entendre, hein, moi y compris. Maintenant, j'ai ma casquette de capitaux risqueurs à cause de ce problème-là. Voilà. Je passe très rapidement, c'est juste pour vous montrer que ben, si tout se passe bien, donc là j'ai pris les chiffres des montants levés qui correspondent aux séries A, B, C, D, E classiques. C'est-à-dire, voilà, si on tombe dans la norme, au début on lève 5 à 10, voilà. Donc ça c'est la valorisation de la start-up avant l'investissement pour ce tour-ci. Puis du coup, on fait la somme des deux, ça donne la valorisation après l'investissement. Quand je divise l'un par l'autre, ça donne la dilution. Donc si le capital risqueur a dit « Ah ben j'investis au tout début », à un moment donné, on continue à lever de l'argent avec le même capital risqueur ou d'autres. Mais si on s'intéresse à ce montant initial, à un moment donné, si tout se passe bien, ben, on a quand même dilué notre capital. Hein. Entre parenthèses, j'ai mis les fondateurs. Donc vous voyez que pour les fondateurs, au début, on détient beaucoup de la boîte, mais plus ça va… moins on en détient, donc c'est quelque chose qu'il faut savoir quand on s'engage dans ce processus. Et au final, quand même, si tout se passe bien, regardez, ça peut taper quand même relativement fort. Hein. Donc, mais ça veut dire plusieurs choses. J'ai investi 5 millions, d'accord ? Pour retourner 225 millions, on parle en valeur absolue, il faut quand même que la compagnie, même si au début j'ai investi que 5 millions, elle sorte à 2,5 milliards. Donc c'est un univers qui se dirige vers des tailles de marché où la capitalisation de la compagnie est capable d'être relativement large. Donc si je fais par exemple un nouvel électrolyte qui est présent dans certaines batteries et qui va représenter un pouillème du coût de la batterie, mettons moins de 1 ou 2%, cette taille de marché, elle peut être très captive, elle peut être très intéressante pour les entrepreneurs et pour cette innovation. Mais si au total, quand je regarde l'ensemble des batteries qui peuvent utiliser cette formule chimique, c'est de l'ordre de 10, 20, 30, 40 millions par an, c'est très bien pour les entrepreneurs, mais vous voyez bien que c'est complètement incompatible avec ce genre de modèle. Ou pour avoir du retour sur investissement, il faut nécessairement que la taille de la société à la fin soit très grosse. Alors évidemment, c'est fonction des investissements totaux. Et là, je vous ai montré, et vous aurez le temps peut-être de regarder chez vous parce que j'ai vraiment plus de temps, j'arrive un peu au bout, Ça ne se passe jamais, évidemment, comme dans l'exemple. L'exemple le plus problématique, c'est quand la valorisation, comme vous regardez là, donc là, on a le même montant levé à chaque étape, donc tout se passe bien. Comme prédit, on lève exactement l'argent qu'on devait lever pour faire exactement ce qu'on voulait faire. Le seul petit bémol, c'est que les gens qui arrivent à la série d'après, donc d'autres fonds de capital risque et d'autres investisseurs, disent « Moi, je ne suis pas d'accord que la valorisation, elle est si élevée que ça. » Elle est quand même plus élevée. Hein. Là, on passe de 15 millions pour la fin de la série A, à 30 millions pour le début de la série B. Donc on dit, j'ai créé de la valeur, au lieu de 15 millions, maintenant elle vaut 30 millions ma compagnie. Et c'est classique dans notre univers, hein, ça se passe. Mais là, j'ai fait l'hypothèse que ça augmentait pas aussi vite qu'on pensait. Et vous voyez tout de suite que le retour se dégrade nettement pour une même sortie. Donc là, il y a deux solutions, soit il faut sortir plus haut, soit il faut d'autres mécanismes. Et puis alors là, c'est le cas encore plus dégradé pour vous montrer qu'on arrive assez rapidement dans des univers où du coup, il faut compresser les échelles de temps, où là, j'ai dit, finalement, au lieu de 20 millions qu'on pensait qu'il nous fallait pour la série B, il nous faudra 30 millions. Puis au lieu de 50 millions, il nous faudra 75. Et puis finalement, le marché, il n'est pas aussi bien qu'on pensait. Au lieu de vendre à 2,5 milliards, et ça reste une sortie tout à fait honnête. Hein. Vendre sa boîte à 700 millions, ça reste très, très, très rare. Moi, j'ai vendu la mienne à 365. Et là, pour le capital risqueur, ça devient plus problématique. Donc là, on a un divorce où l'entrepreneur, lui, qui a investi 20 000 euros pour former la boîte, il sort quand même à 70 millions. Donc la vie est belle. Le capital risqueur, lui, il n'est pas content du tout. Donc ça crée un peu tout cet univers pour la raison pour laquelle il y a des mariages, il y a des divorces, il y a du drame, etc. Écoutez, je vous laisse un peu avec ça qui est rigolo. Si vous voulez vous lancer, réfléchissez avant si c'est pour vous. Les deux questions typiques, c'est est-ce que vous avez envie dans les 50 prochains jours de parler à 50 personnes comme notre intervenant pour savoir un peu où est-ce qu'on en est dans les batteries de voitures, mais combien on est prêt à payer, et puis est-ce que ça va être de l'énergie par litre ou de l'énergie par kilo, parce que les avions ce sera plutôt de l'énergie par kilo, mais les voitures ce sera par litre ou pas, est-ce qu'il faut un mélange des deux, et ça c'est les gens qui vont vous répondre à ça, vous n'avez pas trouvé ça dans la littérature. La majorité des questions que vous allez vous poser sur la viabilité de votre entreprise, ça va être en parlant à des gens que vous allez avoir et donner votre idée. Et donc, Si c'est pas quelque chose qui vous semble intéressant d'en savoir plus en parlant avec des gens, c'est compliqué. Et puis, est-ce que l'idée de détenir des parts d'une entreprise, ça vous intéresse? Si ça vous intéresse pas trop, trouvez peut-être un autre mécanisme. Enfin, c'est un sport d'équipe. Et puis, quand même, je voudrais le dire, il y a plein de façons de monter des entreprises. Les startups, comme je l'ai montré, particulièrement aux États-Unis, c'est un peu brillant, c'est super, c'est le glamour. Mais il y a plein de façons de trouver des sources de capital qui ne sont pas du capital risque, et il y a plein de façons de monter les entreprises qui ne sont pas compatibles, comme je l'ai montré au niveau des rentabilités économiques, avec le capital risque. Quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais, le plus important, c'est vos clients. Si quelqu'un achète votre produit, vous gagnerez toujours, vous trouverez toujours un moyen. Donc dans le doute, allez essayer de trouver des clients, des gens qui sont intéressés de payer le plus vite possible pour votre produit. Et puis, j'ai fait l'exposé en français, mais quand même, il n'y a pas de capital risque. Vous avez vu tous les mots, c'est du barbarisme sans arrêt. Si vous n'avez pas une maîtrise de l'anglais, ça sera quand même très compliqué. Hein. C'est un univers anglo-saxon. Voilà, je vais passer là-dessus parce que j'ai plus le temps. Et puis, ça, vous l'aurez dans la présentation parce que c'est filmé. Mais si vous voulez en savoir plus, vraiment, le livre que je vous conseille, c'est ça. Tout ce que je vous ai dit, ça se trouve pas très facilement. C'est un peu dommage d'ailleurs. C'est un univers un peu de la finance qui n'est pas très bien partagé, je trouve ça dommage, c'est pour ça que je voulais un peu échanger avec vous. Il y a ce personnage qui s'appelle Yairim dans un fonds qui s'appelle Extensia, qui travaille sur LinkedIn et qui fait des posts très intéressants. Et puis, il y a des gens qui publient chaque jour ce qu'on appelle des newsletters, donc des lettres qui vous arrivent par email. Il y en a une qui s'appelle Termsheet Lox Asios Prorata. Je vous conseille d'en prendre note. Je vais vous dire merci, puis je vais revenir là, comme ça vous pouvez prendre quelques notes. Voilà, je vais essayer d'aller assez vite.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.